Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 24 janvier de l'an 2001 à Saint-Jodard.
Après avoir saisi l'être en acte comme le principe de l'être du côté de la finalité, du côté du terme. Les deux grandes causalités, un terme à l'être, c'est-à-dire une analyse de ce qu'est l'être en tant que tel, comme cette distinction de l'acte et de la puissance est difficile pour notre intelligence à saisir. On y reviendra au terme. On regarde comment cette distinction existe dans les différents niveaux d'être. C'est-à-dire au niveau de l'esprit. L'esprit est être, être spirituel. Nous sommes la fine pointe de notre âme, des êtres spirituels, ce qui s'exprime par l'intelligence et la volonté. Dans la recherche intellectuelle, nous avons précisé cette distinction de l'être en acte et en puissance, en essayant de saisir ce que peut être l'acte dans la vie de l'intelligence, la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que représente la distinction de l'être en acte dans la volonté, l'amour? Être en acte dans la volonté et la capacité d'aimer comme la capacité de connaître. Il faut bien voir le sens de cette recherche, hein. Exactement comme pour la vérité. La vérité, c'est l'exigence de l'être en acte pour l'esprit, qui est d'abord intelligence. L'exigence de l'être en acte dans la volonté, et c'est l'amour. L'amour est acte. La scolastique dira l'acte second, et la volonté, l'acte premier. Disons tout simplement que la volonté est une capacité d'aimer et que l'amour représente l'acte volontaire dans toute sa pureté, dans toute sa noblesse, dans toute sa grandeur, c'est d'aimer. Nous avons des expériences diverses d'amour. Et pour comprendre l'être en acte dans la volonté, il faut prendre l'expérience d'amour la plus parfaite que nous avons. Voyez bien la méthode qu'on suit, hein. Vous avez diverses manières d'aimer, c'est sûr. D'aimer spirituellement. le désir. On pourrait partir du désir. Le désir est une forme d'amour. Mais c'est un amour qui reste imparfait. Qui est encore imparfait. Qui n'est pas achevé. Donc je ne prendrai pas l'être en acte dans la volonté en étudiant le désir. Bien que ce serait très intéressant. Vous voyez, si j'étudiais d'une manière phénoménologique quel est l'acte d'être dans la volonté, j'étudierais le désir en premier lieu. Alors ça, vous pouvez le faire, hein. Et ce serait très intéressant puisque le désir est quand même un acte très important dans notre vie spirituelle. Mais j'aime mieux, au point de vue philosophique, prendre là où l'acte d'amour est le plus parfait. C'est l'expérience que nous avons de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié revient constamment en philosophie dès qu'on étudie la volonté. On ne peut rien comprendre à la volonté si on n'a pas compris ce que c'est que l'amour d'amitié. Parce que la volonté est faite pour que nous vivions de cet amour d'amitié. Alors, nous avons déjà vu, mais je reprends, en allant plus loin, l'amour d'amitié, nous le savons, a ceci de caractéristique, c'est qu'on est deux pour aimer. On n'est pas tout seul. On est deux pour aimer, vous voyez. La très grosse différence. Pour l'intelligence, vous n'êtes jamais deux pour être intelligent. Vous n'allez pas dire quand vous passez un examen, oh, j'ai mon ami, je ne peux pas penser tout seul, je ne pense qu'avec lui. Alors, on dira non, c'est vous qui êtes examiné, c'est pas votre ami. Vous êtes seul. L'intelligence veut la solitude. C'est Dieu qu'on garde, c'est Dieu qu'on connaît, mais on le connaît avec nos propres forces. L'intelligence isole. Les communautés intellectuelles, c'est toujours des communautés d'êtres qui sont seuls. Tandis que l'amour, c'est ce qu'il a de caractéristique. Il faudrait vous demander pourquoi. L'amour, pour se réaliser pleinement, demande qu'on soit deux, dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est quelqu'un qui aime l'ami, l'autre, l'ami, mais non pas seulement l'autre, mais l'ami. C'est-à-dire celui qui m'aime. Donc, je l'aime dans son amour pour moi. Mais je ne m'arrête pas à l'amour qu'il a pour moi, c'est lui que j'aime. Ça, c'est le propre de l'amour d'amitié. Nous avons tous, plus ou moins, l'expérience de l'amour d'amitié. Là, on est pris par un certain amour spécial pour tel ou tel. Et tant qu'il n'a pas répondu, on reste dans le désir. Vous voyez ? On reste dans le désir. Le vrai désir, c'est désirer l'amitié. C'est le désir le plus, le plus éloquent et le plus fort, c'est de désirer l'amitié. Mais je peux regarder l'amitié elle-même, dans la mesure où j'en ai une certaine expérience. L'amitié se noue dans le choix de l'ami. Parce que l'amitié ne se termine pas, encore une fois, à l'amour de l'ami pour moi, parce que si se terminait sur l'amour de l'ami pour moi, mon amitié n'aurait pas cette fidélité. Il se termine à l'ami, à la personne de l'ami, à travers l'amour qu'il a pour moi. Et dans l'amour qu'il a pour moi, grâce à l'amour qu'il a pour moi, je peux atteindre le cœur de mon ami. Le cœur personnel, ce qu'il y a de plus personnel en lui. Et plus l'amour de l'ami pour moi est fort, plus j'atteins profondément le cœur de l'ami. Et l'amour d'amitié s'achève sur la personne de l'ami. L'amour d'amitié est donc un amour de l'amour pour atteindre la personne. La personne est quelque chose de secret, de profond, au-delà des apparences. Quand j'aime quelqu'un uniquement à cause de son sourire, à cause de ses yeux, à cause de ce qu'il est, de ce qui se manifeste, ce n'est pas l'amour d'amitié. Je peux être séduit par quelqu'un. Quand on est séduit par quelqu'un, ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié dépasse toute séduction, parce que la séduction est toujours sensible, dépasse toute séduction pour atteindre l'autre, la personne, et l'aimer. On répond à son amour en l'aimant, en le rejoignant. Cet amour est un acte propre de ma volonté. C'est ma volonté qui est entièrement prise par cet amour. Et cet amour est d'ordre intentionnel. C'est le propre, justement, de cet amour spirituel, d'être intentionnel. Marquez que la passion aussi est intentionnelle, mais c'est un intentionnel spirituel. L'amour d'amitié, c'est l'intentionnel spirituel. L'intentionnel, point de vue philosophique, veut dire quelque chose qui n'est pas la réalité existante, mais qui est ce qui permet de connaître. Il y a une intentionnalité intellectuelle et il y a une intentionnalité affective, ce qui me permet de dépasser le sensible et d'atteindre ce qu'il y a de plus spirituel dans quelqu'un, de plus profond. L'acte d'amour spirituel n'est pas la passion. Il peut assumer la passion, mais il la dépasse dans ce qu'il a de propre. L'amour premier que nous connaissons le plus immédiatement, c'est un amour passionnel. bonheur passionnel qui est toujours à l'égard du sensible et qui varie. La passion se modifie selon le bien sensible qu'on aime. Et le bien sensible prend des caractères très différents. C'est différent. De sorte que la passion d'un peintre pour la physionomie de quelqu'un, pour le regard de quelqu'un, est très différente de la passion de ce qu'on appelle l'amoureux. C'est très différent. Mais c'est toujours la passion quand même. Elle a différentes modalités. Et l'amour spirituel, je ne dis pas, est en fonction de la passion. Non. L'amour spirituel dépasse la passion. Il peut se nourrir de la passion. Et très souvent, il se nourrit de la passion. Mais il la dépasse. Et quand la passion est trop forte, l'amour spirituel est comme étouffé par la passion. Et la plupart des gens, hélas, restent en face de cet amour passionnel. Saint Thomas dira « Ut in pluribus » la plupart du temps. On demeure dans l'amour passionnel. « Eros » en grec, c'est l'amour passionnel. Cet amour passionnel qui peut être très fort, très violent. C'est très grand. Mais c'est un amour passionnel. Et l'amour passionnel reste toujours un amour possessif. C'est le propre de la passion, ça. C'est un amour possessif. On aime l'autre pour nous-mêmes, parce que ça nous fait plaisir, parce que nous en avons besoin, parce qu'il est agréable pour nous. Parce qu'il nous donne de la joie, parce qu'il nous fait vivre amoureusement, avec chaleur, parce qu'il nous permet d'être toute voile dehors, pouvoir nous élancer. On connaît très bien ce que c'est que la passion. La passion en elle-même n'est pas mauvaise, ce qui est mauvais, c'est quand la passion étouffe l'amour spirituel. Et quand la passion étouffe l'amour spirituel, alors on n'aime plus l'autre pour lui, ce qui est le propre de l'amour d'amitié, c'est d'aimer l'ami pour lui, en premier lieu, et non pas pour nous. Tant qu'on l'aime pour nous, la passion domine. Et c'est pas mauvais, sauf quand ça étouffe l'amour spirituel. Ça empêche l'amour spirituel de se développer selon ses exigences propres. L'amour spirituel, c'est aimer l'autre pour lui-même. C'est aimer dans l'autre ce qu'il y a de meilleur, de plus grand, et de vouloir que ce meilleur et ce plus grand grandissent. Et on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils grandissent. Tant qu'on aime l'autre pour lui, dans l'amour passionnel, on aime l'autre pour nous. Et c'est pour ça que l'amour passionnel accapare. On veut que toujours l'ami soit notre bien. Et soit notre unique bien. On n'aime pas de partager, parce que l'ami serait pris par d'autres. Dans l'amour spirituel, au contraire, on aime le rayonnement de l'ami. On est heureux de son rayonnement, parce qu'on l'aime pour lui. Et donc, on est heureux que d'autres l'aiment. Dans l'amour passionnel, on capte, on prend pour soi. Voyons. On peut très bien saisir cela quand on a suffisamment de lucidité dans l'amour passionnel, parce qu'on est tous passionnés, et c'est bon d'être passionné. C'est effrayant des êtres qui ne sont pas passionnés, surtout quand ils sont jeunes. Quand ils sont plus âgés, c'est différent. La passion diminue. La passion, elle est dans le temps, tu vois. Elle dépend de notre corps. Elle dépend de notre sensibilité. Donc, quand on est jeune, il y a nécessairement un amour passionnel qui peut être très fort. Et c'est beau. Mais on ne reste pas sur cet amour passionnel. L'amour humain, c'est un amour spirituel. On aime l'autre pour l'autre. On aime l'autre pour lui-même. Aimer l'autre pour lui-même, c'est encore nous qui aimons. C'est en sens ça qu'on dit que l'amour est extatique. L'amour spirituel est extatique, une sortie de soi vers celui qu'on aime. On est tout entier tourné vers celui qu'on aime. C'est le propre d'un amour spirituel. Vous voyez, ce n'est pas seulement le dévouement. Le dévouement, c'est l'aspect pratique de cet amour spirituel. Quand on aime quelqu'un, on se dévoue à lui. C'est très beau d'être dévoué. Mais l'amour est plus que le dévouement. Puisque dans l'amour, on se donne. Le dévouement, on ne se donne pas de la même manière. On se donne partiellement. On réalise les choses qu'on doit faire, mais on ne se donne pas personnellement. Dans l'amour spirituel, on aime l'ami pour lui et on se porte vers lui, on se tourne vers lui, on veut l'unité avec lui, on veut l'aimer dans ce qu'il a de plus spirituel et de plus profond. L'amour spirituel, c'est l'acte de ma volonté. Et cet amour spirituel dans l'amitié prend toute ma volonté, s'empare de toute ma volonté, de tout moi-même, pour aimer l'autre. Parce que la volonté, l'expression de saint Thomas est très juste, c'est une faculté du sujet. C'est le sujet qui aime. Vous voyez, l'intelligence, on dira facilement, c'est la tête. Oui, l'intelligence, elle est partielle. Ce n'est pas la personne. Tandis que la volonté, c'est une faculté du sujet. C'est le sujet qui aime. C'est tout le sujet qui aime. C'est pour ça que quand on aime avec son intelligence, son aspect spirituel et son aspect sensible et passion. Ils sont entraînés dans ce mouvement d'amour. Cet amour spirituel, ce don de nous-mêmes, puisque cet amour est extatique, donc on se donne. Et on se donne personnellement à une personne. Se donner personnellement, c'est donner ce qu'il y a de le meilleur en nous. C'est pas donner quelque chose qu'on réalise, qu'on arrive à faire une bonne cuisine. C'est une manière de se donner, mais on ne se donne pas dans des petits plats, non. On manifeste son amour par des effets, par des petits signes, et pas se donner. Se donner dans l'amour d'amitié, c'est justement orienter notre âme dans ce qu'elle a de plus spirituel vers celui qu'on aime. Par le fait même, c'est accueillir l'autre. Puisqu'on aime quelqu'un qui nous aime. Donc, celui qui m'aime se donne à moi. Et je l'accueille. Et en l'accueillant, je me donne à lui. Vous voyez, c'est réciproque. Donc, ce mouvement d'aimer, de se donner, pourrait très bien être reçu, ou plus exactement, pourrait très bien ne pas être reçu dans le désir. Il n'est pas reçu. Alors il n'y a pas d'amitié. Pour qu'il y ait amitié, il faut réciprocité. Faut que les deux amours se donnent et se rencontrent. Et en se rencontrant, se permettent de s'intensifier, de se purifier. C'est ça qui est très curieux. Parce que quand l'amour aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on n'est pas reçu. On est reçu gentiment, poliment, mais on n'est pas reçu amoureusement. On n'est pas reçu dans l'amour. Or, l'amour a très fort, avec une acuité très grande, ce qu'il est. Et il ne peut pas être reçu n'importe comment. Il ne peut être reçu que par l'amour. Il y a une exigence propre de l'amour qui exige celui qui reçoit d'être lui-même dans cette attitude extatique, dans cette étude d'aller au-devant, de sortir de soi. Quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on sent très bien que l'amour ne peut pas s'épanouir. Il s'arrête, il se bloque. Il peut rebondir sur nous-mêmes, et alors ça nous fait mal, ça nous blesse. Quand on dit que l'amour peut blesser, on voit très bien. Quand il y a inégalité, et une très forte inégalité dans l'amitié, le don qu'on fait à l'autre, qui n'est pas reçu comme don, qui n'est pas reçu avec cette espèce de délicatesse particulière que donne l'amour, alors ça blesse. L'amour demande d'être reçu plus que n'importe quelle autre réalité. C'est une réalité fragile. C'est ce qu'il y a de plus fragile en nous, l'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus fort. Je dois affirmer les deux. Ce qui est ce qu'il y a de plus fragile en nous. Parce que quand nous aimons, nous donnons. Donc, c'est fragile. Ce qu'il y a de plus actuel en nous, de plus merveilleux en nous, se donne à l'autre. S'il est reçu, il peut s'épanouir. Et il s'épanouit dans la mesure où il est reçu. S'il n'est pas reçu, il doit retourner à sa source. Il retourne à sa source d'un amour rentré. Et ça peut être très douloureux parce qu'il était fait pour être donné et voilà qu'il ne peut pas atteindre sa fin. C'est très important pour nous de comprendre l'acte d'être dans la volonté. C'est cet amour spirituel l'égard de l'autre. Mais cet amour spirituel à l'égard de l'autre, c'est moi qui aime intentionnellement. Et j'aime mon ami. Mon ami, il existe. Il vit. Il est. Et c'est lui qui m'attire. C'est lui qui me permet de sortir de moi-même pour rejoindre, pour le rejoindre, pour l'aimer. Donc, si je regarde cet acte qui est l'amour de choix que j'ai pour mon ami, je vois que cet acte est commandé par l'ami. C'est lui, c'est sa bonté, son amabilité pour moi qui m'attire, qui est une force attractive. Je vois quelque chose d'analogue, voyez, et ça c'est très délicat. Je vois quelque chose d'analogue à ce que nous avions vu à propos de la vérité. Je vous avais dit que la vérité formelle, elle est dans mon intelligence qui connaît. Et la vérité ontologique, c'est la réalité qui mesure ce que je connais. Et ce rapport très particulier de l'acte entelekeia, était la connaissance, et puis l'acte mesure la réalité existante. Et c'est pour ça que je peux définir la vérité, mon intelligence qui connaît et qui est conforme à la réalité existante. Cette conformité de l'intelligence avec la réalité existante, c'est ça la vérité. S'il n'y a plus la vérité existante, il n'y a plus de vérité. La vérité formelle, elle est dans mon intelligence, mais mon intelligence relative à la réalité. Ici, il y a quelque chose d'analogue. Je dis bien quelque chose d'analogue. Ce n'est pas égal. Il y a quelque chose d'analogue. Mon amour, c'est comme la vérité formelle. C'est mon amour. C'est ma connaissance. C'est ce que je suis capable de réaliser dans l'immanence pour l'intelligence, dans une sortie de soi-même dans l'amour. L'amour ne me fait pas demeurer dans mon immanence. Elle me fait me porter vers l'autre. La connaissance se réalise dans l'immanence. Vous voyez ? Et c'est là la chose très différente. L'intentionnalité intellectuelle se réalise dans une assimilation, toujours au plus intime de moi-même, dans une immanence. L'intentionnalité affective se réalise dans une extase, une sortie de soi. On va vers celui qu'on aime. Quand on connaît, on ne va pas vers celui qu'on aime, on le connaît. On reste chez soi. Et on demeure chez soi. Tandis que quand on aime, on va au-devant. On ne reste pas chez soi. Il y a une sortie de soi. C'est pour cela que le rapport entelekeia energeia n'est pas le même du côté de l'intentionnalité intellectuelle et du côté de l'intentionnalité affective. Des deux côtés, il y a acte entelekeia en moi, dans ma connaissance et dans mon amour. Des deux côtés, il y a ceux que je connais, qui existent, ceux, lui, que j'aime, qui existe, et vers qui je tends et qui m'attire. Et puis sortir de moi-même. L'un est comme mesure pour la vérité, l'autre n'est pas mesure au sens absolu, puisqu'il attire, il fait l'unité, l'union, les deux cœurs. Et cette union est différente, puisque celui que j'aime ne m'attire que s'il m'aime. La réalité que je la connais, même si elle reste immobile, même si elle est indifférente à moi, si elle ne me connaît pas. Je la connais. L'objectivité est parfaite. Elle porte en elle-même son caractère propre de permettre cette assimilation, cette connaissance. Tandis que dans l'amour, il faut que celui que j'aime et que j'ai choisi comme ami m'aime. Et c'est en tant qu'il m'aime qu'il m'accueille. Vous voyez, il y a une espèce de complicité affective très mystérieuse qui fait que l'entelekeia est beaucoup plus uni à l'energeia que dans la connaissance. Du moins, plus uni, une autre manière d'être uni. Il ne mesure pas. Il est l'attire pour réaliser l'unité. Et il y a une certaine unité qui se fait, mystérieuse, très grande. Et je crois que ça est important à voir pour saisir bien le caractère tout à fait particulier de l'amitié. Où la distinction en telekeia, la distinction d'Aristote, en telekeia et energeia, a un caractère spécial. Que celui que j'aime, l'ami, je l'aime en tant qu'il m'aime. Mais il est energeia parce qu'il est une personne. Et alors, il a bien, à ce point de vue-là, le caractère de principe, de fin, qui m'attire. Et ce caractère de fin ne peut être atteint que s'il m'aime, mais ce caractère de fin demeure toujours quelque chose d'au-delà de l'intentionnalité. Parce qu'il touche la réalité de l'ami. Un toucher spirituel, hein, pas un toucher physique, un toucher spirituel qui fait que j'aime l'ami, même absent. Mais présent, plus présent que jamais, mais absent visiblement. Et dans la fine pointe de ma volonté, je le touche, je l'atteins. Son amour est le moyen pour l'atteindre. Et ce n'est pas son amour que j'atteins en dernier lieu, c'est lui, dans son être. C'est sa bonté. Sa bonté, c'est son être. Vous voyez que des deux côtés, quand je regarde l'acte, dans ma vie spirituelle, du côté de l'intelligence, comme du côté de la volonté, je retrouve que l'être vrai, que l'être bon, sont vraiment l'être en acte. Capable de susciter en moi une connaissance vraie, capable de susciter en moi un amour authentique, un amour spirituel. Et j'atteins bien quelque chose de plus que l'amour, l'être, la bonté. La bonté ne se dévoile à moi qu'à travers l'amour. Ça explique du reste pourquoi certaines personnes sont pour moi bonnes. Parce que je les aime. Et que pour d'autres personnes, elles sont comme indifférentes. Elles ne sont pas connues. C'est parce que c'est par l'amour de ces personnes que leur bonté se dévoile. par l'amour de cette personne. Cet amour personnel, ses bontés se dévoilent. Et il y a une réciprocité de l'ami et de celui qui aime. Une double réciprocité pour dévoiler ce qu'est la bonté. La bonté reste toujours quelque chose de très caché dans l'être. Et se dévoile comme bonté personnelle par son amour pour moi et l'amour que j'ai pour lui. Autrement, je ne dévoile pas. Il y a toujours quelque chose qui reste caché. Quand vous dites, par exemple, alors je peux le dire au point de vue philosophique, à titre d'exemple, Dieu est un Dieu caché, la bonté de Dieu ne se dévoile qu'en raison de ton amour et en raison de mon amour. Et plus la personne est grande, plus sa bonté est voilée et cachée. Il y a des bontés assez superficielles, alors qu'ils sont dévoilés pour tout le monde. Il y a des bontés beaucoup plus secrètes, qu'on ne découvre que par l'amour de la personne, et dans cet amour réciproque, se dévoile la bonté d'un être. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que je vois par mon expérience et mon analyse, je vois que l'acte d'être, l'existence, ne fait qu'un avec l'être. La vérité de l'être se dévoile par la connaissance que j'ai de cet être. Et la bonté de cet être se dévoile par la connaissance, par l'amour que j'en ai. Et la bonté est plus cachée puisqu'il faut la rencontre de ces deux amours. Et c'est grâce à la rencontre de ces deux amours que la bonté se dévoile et se manifeste. Alors, vous voyez, que la bonté, on serait tenté de dire qu'elle ne peut se connaître que par une méthode phénoménologique. Je dis, on serait tenté, hein, puisque il faut l'amour réciproque pour que la bonté se dévoile. Donc, il faut que cette bonté soit vécue par moi et pour qu'elle soit vécue par moi, il faut que moi-même je vive de son amour pour qu'elle puisse se dévoiler. Or, est-ce que ce n'est pas le propre de la phénoménologie d'étudier quelqu'un en tant que connu, en tant qu'aimé? Et ne se dévoilant qu'en tant que connu, en tant qu'aimé. Donc, il y a là quelque chose qui apparaît comme une exigence tout à fait propre. La différence, c'est que dans ma connaissance métaphysique du bien, je reste toujours lié au jugement d'existence. Dit lui est au-delà de ce qui est connu et qui est source de ce qui est connu. Donc, il y a bien un moment analogue à la phénoménologie, mais il y a un dépassement de la phénoménologie grâce au jugement d'existence que la phénoménologie ignore. Puisqu'il y a la mise entre parenthèses de l'être. Alors que je saisis la bonté de la personne comme une bonté existante. Et c'est même cela qui lui donne son caractère propre d'entelekeia, d'acte. Voyez donc qu'il y a dans ma connaissance du bien, quelque chose, je ne dirais pas qui est subjectif, non, quelque chose qui dépend du sujet. La bonté est une force d'attraction sur ceux qui sont capables de subir cette attraction. Et pour être capable de subir cette attraction, il y a une condition sine qua non, la connaissance.